VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Ravi de vous retrouver, merci d'être avec nous. En Côte d'Ivoire, aucune accalmie au sein du PDCI-RDA, principal parti allié du RDR au pouvoir. Les tensions au sujet de la présidentielle d'octobre prochain s'aggravent de jour en jour, précisément autour de la candidature de l'actuel chef de l'État. Quatre ténors du parti ont rejeté ce qui est désormais connu comme l'appel de Daoukro du président du PDCI, Henri Konan-Bédier. Dans une interview exclusive à VOA Afrique, Kwadio Konan-Bertin, ou Kakabé, un des quatre frondeurs, affirme que le tsunami politique que connaît le PDCI conduit déjà le parti vers l'éclatement. Il indiquait que lui et les trois autres contestataires vont tout faire pour barrer la route à Alassane Ouattara.
L'union sacrée est là, l'union fait la force, dit-on. Et tous les quatre, nous sommes en pour parler justement, pour dégager la stratégie la plus efficace possible pour battre M. Alassane Dramane Ouattara. Si nous estimons que la meilleure stratégie pour battre Ouattara, c'est de trouver un candidat des quatre, oui, pourquoi pas. Eh bien, si nous estimons que en allant à deux, à trois ou à quatre, c'est plus efficace, bon, on appréciera. Mais toujours est-il que nous sommes conscients des enjeux et notre détermination à faire partir M. Ouattara par les urnes est sans équivoque. Et tous les quatre, nous sommes en pourparlers.
Éventuellement, un candidat ?
Naturellement, si ça passe par désigner un candidat, oui, pourquoi pas, nous le ferons dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire tout entière, qui a besoin de réconciliation vraie, parce que, croyez-moi, 5 années de vengeance, ça suffit. La Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver, les Ivoiriens ont besoin de se retrouver, et la portée de vengeance telle qu'appliquée par M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas celle qu'il nous faut pour réunifier notre pays, pour le remettre sur le rail du développement, parce qu'ils sont encore des milliers qui sont en prison, qui attendent un jugement, qui sont encore des milliers qui sont en exil. C'est pas comme ça que la Côte d'Ivoire va se bâtir.
Kwadio Konan-Bertin du PDCI-RDA, interrogé dans les studios de la VOA à Washington. Politique encore, mais cette fois-ci au Congo, vers un changement de constitution à l'approche des élections en 2016. Le parti au pouvoir réitère la nécessité de changer le texte. La constitution de 2002, qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2 et l'âge limite des candidats à 70 ans, a fait son temps, estime Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT. Cité par l'AFP, l'opposition soupçonne le Parti congolais du travail de chercher ainsi à offrir au président Denis Sassou Nguesso la possibilité de se représenter. En République centrafricaine, les religieux s'impliquent dans la lutte contre l'impunité. La commission justice et paix de l'épiscopat centrafricain y a mis un point d'honneur en renforçant les capacités de ses membres sur la question. On écoute son président, l'abbé Frédéric Nakombo.
La formation actuelle est très importante parce que la lutte contre l'impunité reste un chantier difficile à explorer vu la situation militaro-politique qu'a traversée notre pays, la République centrafricaine. Cette formation s'inscrit beaucoup plus dans la dynamique de la mise en œuvre du projet Secours catholique qui a essayé de soutenir les activités de la commission JCP pour que les agents nationaux et diocésains de la commission épiscopale JCP soient en mesure de lutter contre l'impunité au niveau régional et local et qu'ils puissent œuvrer pour la paix en République centrafricaine. En fin de compte, c'est la paix que nous recherchons et que nous sommes en train de mobiliser nos agents pour qu'ils puissent nous aider dans le cadre de l'édification de la paix ici à Bangui et au niveau des provinces.
C'était l'abbé Frédéric Nakombo, interrogé par Médro à Bangui.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Dans l'actualité encore, l'émissaire de l'ONU en Libye, optimiste concernant la possibilité d'un accord de paix entre les parties libyennes en conflit. Bernardino Léon s'est exprimé en ce sens hier, à la fin du premier jour du nouveau round de négociations interlibyennes au Maroc. Les médiateurs de l'ONU se sont entretenus séparément avec les délégués du gouvernement libyen, reconnus par la communauté internationale, et ceux des islamistes qui ont pris la capitale Tripoli et créé leur propre administration. La Libye aurait-elle financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007? C'est la question à laquelle tente de répondre la justice française. Claude Guéant, ex-ministre de l'Intérieur de Sarkozy, a été placé en garde à vue aujourd'hui, révèle l'AFP. Citant des sources concordantes, des juges d'instruction s'interrogent notamment sur un virement de 500 000 euros sur le compte de Claude Guéant, du bras droit de Nicolas Sarkozy. Au Maroc, l'agence MAP indique que plus de 12 tonnes de drogue d'une valeur de près de 6 millions d'euros ont été détruites hier par les autorités à Casablanca. Dans le royaume chérifien toujours, l'ONG Reporters sans frontières dénonce le durcissement de la répression à l'égard des journalistes, annonce qui intervient notamment suite à l'expulsion de deux journalistes français accusés de réaliser un tournage sans autorisation.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nous vous l'annoncions en début de semaine, l'armée irakienne a lancé une vaste offensive pour reprendre à l'organisation État islamique Tikrit, la ville natale de l'ancien dictateur Saddam Hussein. À l'heure où les combats s'intensifient, près de 28 000 personnes ont dû fuir, d'après l'ONU, les derniers développements avec Salwa Jaafari.
Les militants de l'État islamique sont bien là, déterminés à garder Tikrit le plus longtemps possible. Sinon résolus à laisser leur marque au cas où ils devraient quitter les lieux. Hier, ils ont brûlé les puits de pétrole d'Agil dans la périphérie de la ville pour se protéger des frappes aériennes. Plus vicieux encore, ce crime de guerre, pour reprendre l'expression de l'agence culturelle de l'ONU, Daesh a rasé le célèbre site archéologique de Nimroud, 3000 ans d'histoire, balayé d'un revers de la main. La bataille de Tikrit est un test majeur pour les forces irakiennes et les milices chiites alliées. Bagdad s'est dit confiante d'atteindre la ville ce soir. En attendant, près de 28 000 personnes ont dû fuir vers la ville de Samarra. Elles viennent s'ajouter aux 2,5 millions de personnes déplacées dans le pays. L'ONU s'inquiète de leur sort. Plus inquiétant encore, selon l'organisation internationale, ce discours du premier ministre irakien Haider al-Abadi. Il a estimé que dans cette bataille, il n'y a pas de parti neutre. Toute personne choisissant la neutralité se ranger de facto du côté de l'État islamique.
Toujours à propos de Nimroud, la chef de l'UNESCO a condamné la destruction au bulldozer de l'ancienne ville assyrienne dans le nord de l'Irak par des militants du groupe État islamique. Pour Irina Bokova, la destruction délibérée du patrimoine culturel de l'humanité constitue un crime de guerre. Ici Yakaba.
L'UNESCO est déterminée à faire tout ce qui est nécessaire pour documenter et protéger le patrimoine de l'Irak et mener la lutte contre le trafic illicite d'objets culturels, ce qui contribue directement au financement du terrorisme, a déclaré ce vendredi Irina Bokova, la patronne de l'Agence de l'ONU pour l'éducation, la science et la culture. Les combattants islamistes ont détruit au bulldozer Nimroud hier jeudi, la dernière d'une série d'agressions sur le patrimoine historique de l'Irak. Les officiels irakiens ont déclaré qu'ils utilisaient des véhicules militaires lourds dans l'attaque, qui a commencé après la prière de midi. Le ministère irakien du tourisme a déclaré dans un communiqué que les militants continuent à défier la volonté du reste du monde et les valeurs de l'humanité avec leurs attaques sur les sites historiques. Abdulhamir Hamdani, archéologue irakien, a déclaré à l'AFP « Je suis désolé de dire que tout le monde s'attendait à cela. Leur plan est de détruire le patrimoine irakien un site après l'autre. » L'ampleur de la dernière attaque à Nimroud n'a pas encore livré ses secrets selon le gouvernement. Hissan Fethi, un membre de la Société des architectes irakiens, a déclaré au New York Times « Je ne peux même pas décrire l'intensité de cette perte. C'est l'un des sites les plus célèbres et sans doute l'un des plus importants dans le monde. »
Avant de clore ce journal, quelques petites nouvelles sportives. Au Nigeria, un bus transportant les joueurs de foot des Canopilas, triple champion titre, attaqué par des hommes armés dans le sud-est du pays. Au moins 5 joueurs ont été blessés par balle, d'après la Ligue nationale que cite l'AFP. En Grande-Bretagne, rencontre de titans en perspective. Les quarts de finale de la Coupe d'Angleterre seront marqués par le grand choc entre Manchester United et Arsenal lundi, alors que Liverpool partira largement favori à domicile face à Blackburn dimanche. Et voilà, point final à ce journal. Rendez-vous avec l'info dans environ 20 minutes avec Le Monde Aujourd'hui. Vous retrouverez Chérubin d'Orsil et Morgane Guériec. Voilà, à plus tard.
Soyez au cœur de l'info.